Vous écoutez RTL.
Il est 15h04, vous êtes sur RTL avec Flavie Flamand, parce que bien sûr, on est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Marie, nous allons partager sur l'antenne d'RTL jusqu'à 16h, heure à laquelle je vous rendrai l'antenne pour un prochain point sur l'actu. À tout à l'heure, merci. Et si on kiffait la vie aujourd'hui en s'interrogeant sur notre peur de la mort? Une émission mortelle cet après-midi sur RTL. À tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et filent les mois et les saisons. Et nous voici déjà le 1er décembre, le nez rougi par les frimas de l'hiver. Soyez les bienvenus au show sur l'antenne d'RTL, où l'on sait qu'au moins ici, on va vouloir se faire du bien. Au moins ici, on va s'écouter et on va partager jusqu'à 16h et en direct. Alors je vous attends, vous le savez, au 3210 et sur les réseaux sociaux, pour une profonde réflexion aujourd'hui. Et filent les mois, les saisons, les années, les décennies, et filent la vie. La mort en fait partie, mais on ne s'habitue jamais vraiment à cette idée qu'elle concerne les autres ou notre propre finitude. Si certains d'entre nous essaient de ne pas trop y penser, de prendre les choses avec philosophie, fatalisme ou même sagesse, eh bien d'autres restent inquiets en permanence face au sablier de l'existence. Alors quelles sont les conséquences de la peur de mourir pour un enfant ou pour un adulte? Comment la gérer? Est-ce que nous sommes tous atteints justement par cette maladie-là? On en parle avec nos invités aujourd'hui. Aurélia Schneider, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre, Aurélia Schneider. Alors, vous recevez évidemment beaucoup de patients. Il y a le philosophe Vladimir Yankelevitch qui disait « Chaque mort étonne ou scandalise comme si elle était la première ». Est-ce qu'effectivement, la mort, c'est quelque chose auquel on doit s'attendre et qui pourtant parvient à nous surprendre, toujours ?
Je pense qu'il faut qu'on s'y attende, oui.
Oui, mais pourtant, on la vit comme si à chaque fois c'était un choc. C'est comme si c'était comme un coup du sort dans l'existence, alors qu'elle est inéluctable.
Oui, mais on n'a jamais tellement envie d'y être confronté. Ça fait toujours très peur. Moi, je vois des patients souvent, le plus souvent phobiques ou hypochondriaques qui en ont peur tous les jours.
Et que ça colonise.
Et si jamais ils y sont confrontés, ils ont encore plus peur. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur. D'avoir une peur excessive, ça peut peut-être se soigner, mais c'est tout à fait normal que chacun d'entre nous soit, quand il est confronté à la mort, en détresse. Une détresse qui va être plus ou moins importante, plus ou moins gérable, avec le temps ou avec des médicaments ou d'une autre façon. Mais c'est effectivement globalement...
C'est normal, docteur.
Voilà, normal et normal que ce soit un choc et une difficulté.
À vos côtés, Marie-France Ballet de Cocromont. Bonjour,
bonjour
Marie-France.
Flavie.
Soyez la bienvenue. Vous êtes psychopraticienne d'inspiration jungienne, vous êtes spécialiste reconnue de l'enfant intérieur et puis vous êtes auteur de cet ouvrage avec votre époux Emmanuel, qui nous écoute et que l'on salue. J'arrête d'avoir peur, 21 jours pour changer chez Erol. Aurélia Schneider, on est quoi? On est des inconscients ou on est des héros? Parce qu'en fait, la mort, elle est au tournant de chaque rue. On pourrait vivre avec en permanence cette idée de la mort, et d'ailleurs certains le font, comme le disait il y a un instant Aurélia Schneider. Qu'est-ce qui nous anime? C'est l'inconscient? C'est l'héroïsme? C'est quoi?
Oui, parce que la peur de mourir cache des peurs atavique, c'est-à-dire des peurs héritées depuis l'aube de l'humanité. Et deux peurs atavique surtout, c'est la peur de disparaître et la peur d'être séparé. Et ces deux peurs habitent tout à chacun.
Voilà, et on reçoit d'ailleurs un des messages d'auditeurs qui nous disent « Moi j'ai peur pour ma propre mort et j'ai peur de celle de mes proches. »
Bien sûr, et ces peurs nous renvoient au petit nourrisson que nous étions, parce que le petit bébé, lui, s'il n'y a pas de lien avec sa maman et son papa, lui, il va mourir. Et donc, toute notre vie, on va être en fin de compte en recherche de lien et de vie en même temps.
Si vous le voulez bien, on va accueillir Carole sur cette antenne. Bonjour Carole, bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'il est sérieux ce sujet aujourd'hui?
Oui.
Alors, c'est un sujet en même temps qui nous concerne tous. C'est ce que je disais il y a un instant à nos invités. On sait, voilà, c'est là, c'est inscrit, c'est dans le cycle de la vie. Et pourtant, évidemment, on la redoute, il y a cette idée de l'inconnu. Vous en avez peur depuis longtemps?
Oui, depuis plus de, je dirais, 15-20 ans.
Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier pour que cette peur vous étreigne?
Non. Au début, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, je pense que c'est venu petit à petit. J'ai commencé à prendre conscience. Après, ma fille est née, donc maintenant elle a 12 ans. Donc peut-être le fait d'avoir maintenant un enfant et une personne qu'on doit protéger, peut-être que c'est là que ce sentiment, cette peur a fait surface, on va dire.
Comment se manifeste-t-elle, cette peur, en fait, Carole?
Quand je me couche. Le soir, quand je me couche, parce que je vis seule avec ma fille, mon mari ne rentre pas tous les soirs de son travail, donc on est seules toutes les deux. Et donc, voilà, le soir, quand je ne suis plus occupée, ma tête, je commence à avoir des idées noires.
Quand vous n'êtes pas détournée finalement de cette idée, comme si cette idée était toujours là, quelque part, en fond de décor, et que le reste était une forme de distraction, hein, c'est ça ?
Tant que j'ai l'esprit, la journée, tant que j'ai l'esprit occupé à penser à autre chose, à faire autre chose, j'y pense pas. Mais le soir, c'est vrai que quand on s'endort, on pense à plein de choses. Et c'est souvent des idées noires, moi, qui me reviennent.
C'est fatigant, hein ?
Oui, parce que malheureusement, comme je disais, il n'y a pas de solution. Autant il y a certains problèmes, on peut trouver des solutions. Là, on sait que la mort, elle est inéluctable. Et comme j'expliquais à votre collaboratrice, j'essaye de trouver des solutions pour ne pas mourir. Mais je sais forcément qu'il n'y en a pas. Mais je cherche toujours.
Alors, on va chercher ensemble, peut-être pas des solutions pour pas mourir, parce que ça va être un peu compliqué, vous êtes d'accord. Mais on va chercher ensemble des solutions pour mieux vivre tout ça. Et ce sera avec Aurélia Schneider et avec, dans un instant, Marie-France Ballet de Coq-Romont, qu'on va appeler Marie-France, ce sera plus simple, hein, d'accord, vous m'en voudrez pas. On se retrouve tout de suite, Carole, sur RTL, ne bougez pas.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Vous écoutez RTL et aujourd'hui jusqu'à 16h, nous allons parler d'un sujet sérieux, notre peur de la mort. Alors évidemment, on est tous confrontés à cette peur-là, à des degrés différents, en fonction aussi de nos vies, en fonction des moments de notre existence, des épreuves que nous traversons. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on a besoin de pouvoir la gérer, cette peur. Alors on essaie de le faire quand même dans la joie, la vie et la bonne humeur cet après-midi sur RTL. Stéphanie nous écrit « Rien que le mot est très angoissant, oui, la mort fait très peur », nous écrit-elle sur Facebook. C'est vrai qu'elle est rarement représentée joliment, la mort. Hein. On parle toujours de la faucheuse, on voit toujours une sorte de squelette absolument immonde. La mort n'est pas une belle dame, Marie-France de Coq-Romont.
Non, et elle donne une terreur mortelle, c'est tout à fait ça.
Oui, exactement.
On peut mourir d'avoir peur, en fin de compte.
Oui, la mort dans les contes pour les enfants, c'est toujours quelque chose. On est dans la culture de l'angoisse, non, Aurélia Schneider, déjà à la base.
C'est pas très joliment représenté, effectivement. Ça fait toujours très peur.
Voilà. Alors, il est certaines religions qui la représentent aussi comme un nouveau départ, comme une façon peut-être de poursuivre l'existence différemment. On y reviendra sur l'influence de la religion et des religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans un instant. Carole est avec nous. Elle est moche, la mort, hein, Carole ?
Ah oui, oui.
Si vous deviez, je sais pas, trouver un mot pour la définir, ou trouver une représentation de la mort, ce serait quoi ? C'est vraiment cette grande faucheuse, ce truc comme ça qui vient nous prendre par surprise ?
C'est la fin de tout.
Alors, qu'on pense.
Oui.
Qu'on imagine.
Oui, c'est ça qui fait peut-être le plus peur. Comme on ne sait pas à quoi s'attendre, on imagine tout et n'importe quoi.
Bah exactement, c'est peut-être l'inconnu. Peut-être qu'en fait, c'est un super soulagement. On se dit, oh, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai pensé. J'ai passé ma vie à penser un truc et en fait, je me suis trompée. Si ça pouvait être comme ça, ce serait bien. Donc le soir, vous, quand la nuit tombe, vous essayez de trouver des solutions pour ne pas mourir.
Oui.
Non, mais parce que en même temps, vous nous avez confié avant l'émission que vous préfériez en rire, donc autant qu'on en parle dans ce terme-là. Comment vous faites, vous, pour pas mourir ?
J'ai pas encore trouvé de solution, justement. Alors, dès que je trouve la solution, je vous la donne.
D'accord, ok. Vous nous passez un coup de fil, on vous fera passer en exclusivité sur l'antenne, en priorité, d'accord ? Bon, alors, Carole, on en rigole et en même temps, c'est vrai que tout ça, c'est angoissant. Quel impact cela a-t-il sur votre vie ?
Comment expliquer
Ça vous empêche de vivre ? Ça vous empêche d'être heureuse ?
Non, parce que j'arrive à le gérer. J'arrive à le gérer. C'est plus me dire, si je pars, qu'est-ce qui va arriver à ma fille ? Qu'est-ce qui va...
Ah oui, à Ewen.
Qu'est-ce qui va... voilà. Comment ça va se passer ? Elle va se retrouver toute seule, parce que j'imagine que ça peut arriver aussi bien quand mon mari est là que quand il n'est pas là. Et ce qui me fait le plus peur, c'est le fait de partir quand il n'est pas là. Et même si elle a déjà 12 ans, je me dis que c'est encore une petite fille. Et voilà, je l'imagine seule. Alors, ça peut être dans n'importe quelle situation, parce que ça peut être à la maison, ça peut être dans la rue, ça peut être dans la voiture, ça peut être une mort, un accident de voiture, ça peut être une mort naturelle, ça peut être, donc, malheureusement, comme je disais, votre collaboratrice avec les événements récents, ça peut être un cambriolage qui tourne mal. J'imagine plein de scénarios
un peu catastrophe quand même.
Et j'essaye de trouver, je me dis, bon, s'il y a quelqu'un qui vient, bon, on se cache, on des parades pour essayer de...
Ça prend du temps, ça. Hein. Qu'est-ce que ça fatigue. J'ai bien connu ça, moi aussi. Hein. Et puis, alors, on échafaude des scénarios incroyables. C'est juste terrifiant. Comment sortir de cette spirale de l'inquiétude? Parce que, Aurélia Schneider, je vous vois opiner du chef. Mais en fait, ce que nous raconte Carole, c'est de l'angoisse qui entraîne de l'angoisse, qui entraîne de la réflexion, qui entraîne de l'angoisse. C'est un cercle vicieux.
Bien sûr, c'est un cercle vicieux. En réalité, vous avez raison d'avoir peur, Carole. Effectivement, tout ça, ce serait terrible si ça arrivait, si vous disparaissiez en pleine nuit, que votre fille se réveillait et qu'elle trouvait que sa mère morte dans son lit. Enfin, y a tout un tas de trucs qui sont absolument épouvantables dans ce que vous racontez. En même temps, vous n'imaginez pas du tout l'autre version qui est que vous pouvez vivre, vous réveiller le lendemain, que tout aille bien, ce qui se passe d'ailleurs régulièrement depuis maintenant 12 ans qu'elle est née. Ce que vous vivez uniquement, c'est le côté dramatique de la situation qui effectivement serait dramatique, ça on le discute pas. Et en même temps, vous n'avez absolument pas, dans tous vos raisonnements, conscience que tous les matins, quand vous vous réveillez, tout s'est bien passé. Et ça, d'une certaine façon, c'est une sorte de petit rétablissement de démocratie qu'il faudrait faire dans votre façon de voir l'existence. Au moins de vous dire déjà que finalement, le matin, tout va bien. Et ouf, ça s'est bien passé, mais je me suis inquiétée pour rien. Et ça, c'est vraiment un petit exercice que je vous conseille de faire tous les matins.
Alors, dans un instant, Carole, c'est Marie-France de Cocremont, Ballet de Cocremont, qui va justement pouvoir vous parler. Elle est pleine de bons conseils. Je vous assure que vous allez mieux vous endormir ce soir, Carole. Vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Carole.
Oui.
Vous êtes toujours là.
Oui, toujours.
Eh bien, Carole, on s'est dit il y a un instant avec nos invités Aurélia Schneider et Marie-France Ballet de Cocremont qu'on allait vous donner quelques petits bagages pour mieux vous endormir le soir et peut-être sortir de ce cercle un peu infernal de l'angoisse de la mort. Donc, on ne va pas perdre de temps. Marie-France, qu'est-ce que vous vouliez dire à Carole?
Alors, bonjour Carole.
Bonjour.
Moi, ce qui me semble important, c'est de sentir que derrière la peur de la mort, il y a plein de composantes. Hein ? Il y a la douleur de souffrir, il y a la peur de l'inconnu, de l'au-delà, qu'est-ce qui va se passer, la peur de ce qui va arriver à son corps, la peur de la solitude, parce qu'on meurt seul, bien sûr, la peur de quitter les êtres chers et les inquiétudes. Quand on part, qu'est-ce qui va se passer justement? Vous parliez, Carole, de votre fille. Moi, ce que je pourrais vous proposer, c'est déjà de sentir qu'est-ce qui vous fait plus peur. Et si vous avez trop peur, de dessiner avec votre main non directrice, donc si vous êtes droitière, qu'est-ce qui se passe en vous? Quelle est la peur qui est là? Et votre peur va forcément sortir de vous pour aller sur le papier. Et vous allez voir les choses différemment.
C'est l'extérioriser,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça.
C'est la manifester au lieu d'être toute seule dans le noir en train de ruminer.
Voilà.
C'est pouvoir
de l'extérioriser et de sentir, là j'ai peur. Ok, je dis j'ai peur de la mort, mais de quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que j'ai peur qu'est-ce qui va arriver à ma fille? Et de le dessiner, de le représenter pour le sortir. Et aussi de sentir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai apporté au monde, qu'est-ce que j'ai apporté à ma fille aujourd'hui. C'est-à-dire sentir que Carole, qu'est-ce que vous apportez chaque jour à votre fille?
Et puis sentir
au monde.
La vie, quoi. Au lieu de s'intéresser à la mort, sentir la vie. C'est ce que vous faites d'ailleurs, Carole, quand vous faites un petit peu la liste tous les soirs des belles choses que vous avez pu vivre dans la journée.
Oui, tout à fait. Voilà, j'essaye de positiver.
Voilà, ça doit vous réconcilier quand même avec, avec les choses positives. Mais Carole, pardon de vous poser cette question, mais moi par exemple, j'ai vraiment eu cette angoisse, mais vraiment, vraiment, matin, midi et soir. Moi, j'attendais même pas que la nuit tombe. Hein. C'était dès le matin quand j'ouvrais les yeux. Et c'était quand même une période qui était compliquée. Je vivais une période vraiment particulière de ma vie où j'allais pas très bien. Est-ce que vous vous êtes interrogé aussi sur la survenue de ces inquiétudes? Est-ce que ça pourrait correspondre à un moment de votre existence aussi où vous êtes un petit peu plus fragile?
Non, j'ai pas ce sentiment parce qu'il y a eu des petits hauts, des petits bas. J'ai arrêté de travailler maintenant il y a plusieurs années. Avant, j'étais militaire, j'étais gendarme. Donc, mais non, j'ai pas l'impression que c'est lié à... J'ai perdu mon papa il y a une dizaine d'années,
ouais.
Mais pour autant, maintenant, j'ai connu aussi des périodes très joyeuses. Donc, j'ai pas ce... Non, j'ai pas l'impression que c'est lié
d'accord.
à une période plus
d'accord,
noire.
Parce que ça, ça peut se produire. En même temps, ce que je note aussi, c'est que votre maman, visiblement, a un petit peu peur aussi. Hein, c'est quelque chose
oui.
de famille.
Oui, a priori, oui. Pourtant, on n'en a jamais discuté, mais une fois, elle m'a fait comprendre qu'elle devait se faire opérer et elle ne voulait pas trop parce que, voilà, elle avait peur de ne pas se réveiller.
Alors, Aurélia Schneider, est-ce que c'est héréditaire ? Est-ce que c'est contagieux, cette inquiétude de la mort, même quand elle n'est pas formulée, clairement ?
Oui, alors, l'anxiété se transmet. L'anxiété se transmet notamment par modèle. On le sait pour les phobies, par exemple, et d'une façon générale, le tempérament anxieux donc, existe en termes de, oui. de personnalité, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi la transmission des angoisses, notamment maternelles, sur les enfants. Des parents qui sont des parents qui s'inquiètent beaucoup de la santé de leurs enfants, qui s'inquiètent oui. beaucoup de ce qui pourrait leur arriver, etc., transmettent chez leurs enfants. Pour une partie, on va dire, cette ambiance anxieuse qui se retrouve du coup chez l'enfant et qui se pérennise, on va dire.
Ok, donc il faut quand même faire attention, Marie-France Ballet de Cocremont.
La peur est très contagieuse, hein, et l'angoisse de mort peut se donner déjà dans le ventre de la mère. Mmh. Si la mère a peur de mourir, si la mère a connu des morts, c'est évident qu'elle va le passer au bébé.
Donc il faut faire attention à ça. Alors peut-être effectivement, vous Carole, que vous avez été dans une culture même non formulée hein, de l'inquiétude de la mort. Néanmoins, vous allez rester à notre écoute, Carole.
Oui,
hein sûr. Et puis, si vous trouvez la solution pour y échapper, vous me passez oui. un petit coup de fil. Hein et oui. puis moi, je la ferai passer aux copains. Hein
d'accord.
Mais surtout, on n'oublie pas de rire, parce qu'effectivement, rire de la mort, c'est une façon aussi de la tenir à distance.
Oui.
Donc voilà, moi, je vous embrasse.
Merci. Hein
et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci
à tous. Et pensez ce soir que vous avez passé un bon moment sur l'antenne d'RTL. Ça fera partie
voilà,
de vos belles choses de la journée. OK ?
Tout à fait. Merci
allez,
beaucoup.
Vous embrasserez.
Au revoir.
Ouais, à bientôt. Au revoir.
Merci,
au revoir.
Au revoir,
Carole.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Laure qui nous écrit « J'ai une approche de la mort très spirituelle. Elle ne me fait pas peur. Pour moi, ce n'est pas la fin, mais c'est une étape. » Merci Laure. Dans un instant, vous pourrez également écouter le témoignage de Luc sur cette antenne qui va dans votre sens, qui vous rejoint. « Quel sujet sérieux ?» nous écrit Pamplerousse. « C'est probablement ma plus grosse phobie. Il suffit que j'y pense ce soir avant de me coucher pour ne pas dormir la nuit. Que ce soit la mienne ou celle de mes proches, c'est une vraie source de crise d'angoisse. Je pense que c'est également beaucoup dû au fait de ne pas savoir ce qu'il y a après. Si quelqu'un a une solution pour ne plus y penser, je suis preneuse. Bah, j'espère qu'on va vous faire passer justement quelques petits conseils. Geneviève qui nous écrit. J'ai un frère qui travaille dans les pompes funèbres. C'est un métier qui n'est pas facile, mais il est là aussi pour rassurer la famille dans les moments les plus douloureux. La mort fait partie du cycle de la vie. Je pense souvent à cette phrase. La vie est éphémère, mais le souvenir d'un être cher reste. Alors profitez de ce qui vous entoure et la mort ne sera que plus douce. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une société qui tient la mort à distance, Aurélia Schneider ? Il fut un temps où la mort faisait partie aussi des familles, où il y avait des veillées, il y avait des rituels qui étaient organisés justement pour peut-être accompagner ces fameuses étapes du deuil. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une tendance à pas vouloir la voir ?
Alors, peut-être. Moi, ce que je constate notamment dans ma consultation, c'est que par rapport à des gens assez âgés ou qui sont maintenant disparus, qui prévoyaient tout un tas de choses concernant leur mort, c'est-à-dire ils prévoyaient une place au cimetière, etc. Ils prévoyaient voilà, un certain nombre de... Même la cérémonie, enfin, des choses étaient oui. organisées. Eh bien, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. L'idée, la simple idée de prévoir ou peut-être d'acheter une concession, etc., ça fait beaucoup moins partie de la culture actuellement qu'il y a à peu près 50 ou 60 ans, où là, c'était beaucoup plus dans la culture de prévoir ce qui allait se passer.
C'était une étape de la vie que de préparer sa mort. Donc,
oui.
Et comme l'écriture d'un testament qui ne nous fait pas mourir, mais qui, quelque part aussi, nous projette dans cette idée de finitude.
Absolument. Alors, à ce propos, chez mes patients anxieux, quelquefois, donc, je suis un médecin comportementaliste, on est amené à travailler sur la rédaction d'un testament. Mais quelque chose pour se familiariser avec ce concept que on peut rédiger quelque chose sur la mort, mais que ça ne fait pas mourir, comme vous venez de le dire.
Oui, on ne meurt pas que
on
de faire...
On ne meurt pas de rédiger un testament.
Exactement. Marie-France Ballet de Cocromont.
Il y a quelque chose de très important, c'est pas parce qu'on a peur de la mort qu'on va mourir mal. Moi, j'ai l'exemple de ma mère, que j'ai accompagnée à sa mort. Ma mère a toujours une angoisse de mort très très forte. Elle a perdu sa mère quand elle était toute petite, et elle a perdu sans cesse frères, sœurs, parents, tout le monde. Et elle avait tout le temps peur de la mort. Et au moment de mourir, elle était très calme. Je l'ai accompagnée, alors elle m'a dit qu'elle a peur, qu'elle avait peur. Je lui ai dit, je resterai là jusqu'au bout. Et je lui tenais la main et je lui disais, moi aussi, j'aurais peur à ta place. Et elle est tombée dans le coma. Et elle est sortie du coma pour chanter une chanson drôle, une chanson que lui chantait son père quand elle était petite. Boire un petit coup, c'était agréable. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est sortie du coma pour nous montrer qu'elle était bien et qu'elle n'avait pas peur. Et elle est morte. Et elle a eu peur, quand même, elle s'est gâchée la vie en ayant tout le temps peur, et elle est morte de façon magnifique, la mort que moi j'adorerais avoir, quoi. Une mort douce, une mort gaie.
Alors, est-ce qu'il faut être confronté à la mort aussi, ou est-ce qu'en tout cas, le fait d'y être confronté, Aurélia Schneider, peut générer des angoisses particulière. Ilana, le frère de mon mari est décédé brutalement d'une crise cardiaque il y a 3 ans, il avait 42 ans. Depuis, je vis avec la peur que mon mari décède lui aussi. Le moindre retard de sa part, je panique. La nuit, je me réveille pour écouter s'il respire, etc., etc. C'est épuisant. Et puis d'autres qui nous écrivent aussi, ben voilà, le jour où j'ai perdu un être cher, c'est là tout à coup que j'ai pris conscience de ma finitude. Et à partir de ce moment-là, les choses ont été différentes.
La plupart du temps, quand je rencontre des personnes qui sont dans ce cas-là, je note un tempérament anxieux au départ. Oui. C'est-à-dire, je note une propension, un terrain fertile, et qui effectivement, à ce moment-là, cette occasion-là, se explose, se révèle presque. Hein. Des gens qui finalement s'organisaient très très bien avec leur anxiété, étaient même des gens très productifs, tout à fait même alertes, en fait, on va dire, même c'est un bon tempérament. À un moment spécifique, un traumatisme fait finalement décompenser cette personnalité et entraîne à ce moment-là des peurs, des craintes, des phobies, des inquiétudes qui pourrissent la vie.
Dans un instant, on va se retrouver sur cette antenne. On va écouter le témoignage de Luc qui va justement nous livrer son point de vue sur la question. Et puis on va revenir sur tous les messages que vous nous laissez aussi sur la religion, quelle qu'elle soit. Hein. Mais cette idée peut-être que la mort est une étape, nous emmène dans un ailleurs. On va en parler en tout cas avec vous sur l'antenne d'RTL. Mais pour l'heure, voici Talk Talk sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, tous ceux qui nous écoutent, qui tweetent, qui sont sur Facebook et qui s'interrogent de ne pas nous voir sur l'écran d'RTL.fr, sachez que Internet est mort sur cette antenne, ou en tout cas dans notre studio. Voilà. On parle de la mort aujourd'hui avec nos invités Aurélia Schneider, qui est psychiatre, et Marie-France Ballet de Cocromont. Alors j'aurais adoré vous permettre d'entendre le témoignage de Luc, mais Luc, eh bien, on ne peut pas vous appeler non plus, donc je vais m'en faire l'écho. Luc se demande pourquoi il faut avoir peur de quelque chose d'inévitable. Ça doit arriver, donc ce n'est pas la peine d'y penser, de se ruiner la vie à penser à cela. Autant profiter de l'existence. Le principal, c'est de bien vivre et de profiter de chaque instant. De son côté, justement, Luc, il dit qu'il aurait plutôt peur de rater sa vie et même de rater sa mort. C'est une façon de voir l'existence, moi, que je trouve plutôt super, parce que c'est une façon de l'aborder. J'ai peur de rater ma vie.
C'est tout à fait ça, parce que derrière la mort, il se cache souvent la peur de vivre. La peur d'avoir des regrets. Il y a une infirmière qui s'occupait en soins palliatifs de personnes au moment de la mort, et elle s'est rendue compte que les personnes au moment de la mort parlaient de 5 regrets. Tout d'abord, le fait de ne pas s'être occupé assez, de ne pas avoir assez dit aux gens qu'ils aimaient leurs sentiments, de pas assez, d'avoir trop travaillé, de ne pas être resté en contact avec ses amis et de ne pas s'être autorisé à être plus heureux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la mort... On dit qu'on a peur de la mort, souvent on a peur de vivre pleinement. Et on sait que plus on vit notre vie, plus on fait ce qui est juste pour nous, moins on aura peur de la mort.
Aurélia Schneider.
Alors ce qui se passe en général, c'est qu'il y a chez mes patients souvent une pensée magique qui consiste à se dire « Ouh là là, mais si jamais je suis très heureux, c'est là que les ennuis vont arriver, c'est là que je vais tomber de très très haut. »
C'est vrai.
Comme s'il y avait une sorte d'empêchement d'être heureux pour ne pas finalement... être trop heureux
et courir le risque.
Et courir le risque que si jamais on mourait, alors ce serait encore pire que tout. Comme s'il fallait s'empêcher d'être heureux pour préparer quelque chose. Mais cette pensée magique de les ennuis vont arriver quand je serai heureux, quand
mais
je serai tranquille,
vrai en plus, hein,
elle est assez dominante.
De se dire, oh là là, je suis dans une super période, il va m'arriver un truc.
Voilà.
Quoi.
Ouais. Le retour de manivelle. Quoi.
Oui, exactement. Comme si on allait payer notre bonheur.
Et en même temps, je leur demande souvent, je leur dis, mais où est-ce que c'est écrit ce truc-là ?
Ouais.
Sur quel registre vous avez vu que c'était marqué ?
Oui, parce que
alors ils sont un peu bêtes, ils me disent bah je sais pas, et on travaille sur ce concept-là de pensée magique qui est assez freinateur quand même.
Bien sûr. Ça y est, on est de retour sur RTL.fr. On est bien vivant, on est là, regardez. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut récupérer les réseaux sociaux. Alors, il y a ceux qui ont peur de la mort, qui en ont peur parfois d'une façon névrotique aussi. C'est quoi ? C'est quand ça commence à coloniser vraiment nos pensées, Aurélia
Schneider ?
Oui,
c'est quand ça devient handicapant.
Voilà.
Et que ça nous empêche
de faire... Il faut consulter, hein ?
Il vaut mieux, ouais.
Parce
c'est une très bonne idée.
Parce que ça peut aider. Voilà, c'est une bonne idée. Voilà, on va donner le 06 de Aurélia Schneider. Non, mais c'est important parce que ça veut dire aussi qu'on peut restaurer aussi son
goût
pour l'existence.
Mais on peut sortir
hein,
de là, surtout. Enfin, moi, j'ai souvent une formule qui dit on doit pas se pourrir la vie avec sa mort.
Oui, c'est vrai.
C'est dommage.
C'est tellement dommage. Il y a ceux qui n'ont pas peur du tout. Alors, Stéphanie nous écrit avoir peur de la mort, c'est normal, mais ne pas en avoir peur, est-ce normal aussi ? J'en ai pas peur du tout. Pour moi, on est, on vit, on meurt tôt ou tard. J'ai été confrontée à la mort par la perte de proches, mais elle ne m'a jamais inquiétée. Nicolas qui nous écrit. Moi, j'ai pas peur de mourir. Je sais que ma maladie génétique gagnera, mais j'ai juste envie de profiter de chaque plaisir de la vie. Et paf.
C'est ça, en fin de compte, il va faire qu'on va avoir de moins en moins peur. C'est profiter à fond, faire comme si quelque part c'était les derniers moments pour profiter complètement, pour vivre à fond. Hein, on sait, c'est prouvé, il y a eu tout un tas d'études, que si on vit pleinement, si on profite, c'est-à-dire que si on, quelque part, en même temps, complètement utiliser ses compétences et ses qualités pour apporter quelque chose au monde, pour participer, pour faire sa part, en fin de compte. Et si on se donne à fond dans ce que l'on est, on aura beaucoup moins peur de mourir. Et en même temps, essayer d'oublier la mort, c'est une illusion. On ne peut pas l'oublier, mais ça peut être un levier extraordinaire.
Bah pour bien vivre,
bien
pour
sûr.
Mieux vivre,
ne pas
pour
oublier
vivre à fond.
Qu'on va mourir pour vivre à fond.
Ouais.
Et puis profiter des gens qu'on aime.
Ouais.
Profiter de ce qui est important pour nous, de ce qui est essentiel. Il y a, nous, dans nos stages sur les peurs, on propose un exercice avec une très belle musique. On propose aux gens de s'allonger et on les conduit comme s'ils allaient mourir.
Wow.
Pour voir au-dessus. Non, au début, ils sont terrorisés et après, ils sont en pleine forme, en pleine vie, parce qu'ils vont voir les choses différemment, ils vont avoir des sensations différentes, voir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu ne veux pas oublier, qu'est-ce que tu ne veux pas regretter. Et ils reviennent, puisqu'à la fin, ils reviennent évidemment, c'est-à-dire qu'ils reviennent avec « Waouh, ça j'ai oublié, ça je ne veux pas louper ». C'est très important aussi, ce qu'on appelle, les psys appellent ça la désensibilisation.
Des exercices donc,
oui.
que vous proposez, vous.
Oui.
J'imagine aussi que vous conseillez certains exercices, voilà. Aurélia, de psychologie positive. Hein,
oui,
pour
alors,
pouvoir...
de psychologie positive et puis aussi un exercice un petit peu basé sur un algorithme qui consiste à se demander si le souci sur la mort est utile ou pas. Et se poser cette question du souci utile. Le souci est utile quand on peut faire quelque chose. Quand on peut agir, quand on peut avoir une action, quelle qu'elle soit, le souci est utile. Si on n'a pas d'action possible, le souci est inutile. Et le souci fait beaucoup de mal. Le souci fatigue, le souci empêche de voir les choses, le souci empêche de profiter de la vie, le souci empêche de profiter des siens. Et c'est vraiment un travail de tri. Les situations parfois existent, parfois n'existent pas. On a besoin de trier ce sur quoi on peut agir ou ce sur quoi on ne peut pas agir.
Et puis, il y a également une histoire de croyances. Il y a les croyances, voilà, la religion. Et puis, il y a la religion qu'on peut faire sienne aussi, c'est-à-dire décider de croire dans quelque chose, dans une façon de vivre ou dans une façon de mourir. On va se retrouver dans un instant pour en parler avec vous. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Alors, plusieurs conseils de nos auditeurs. Karine nous a appelé pour dédramatiser la mort. Je laisse un écrit, une sorte de testament qu'elle agrémente d'année en année depuis 10 ans, depuis la naissance de mon deuxième enfant. Mes peurs s'envolent au fur et à mesure. Voilà, ça c'est une technique. Et puis, des conseils également que vous nous avez laissés sur Twitter de cinéma. One Week and a Day, c'est Mlettre qui a tweeté donc cette idée, ce titre de film que vous pourrez retrouver le 14 décembre prochain. Donc c'est bientôt quand même. Hein. Un film israélien de Asaf Polonsky. Et puis il y a également Rencontre avec Joe Black, alors ça c'est un petit peu plus ancien, 1998, de Martin Brest, avec Anthony Hopkins et Brad Pitt. Brad Pitt dans le rôle de la mort. Je vous assure que là, tout à coup, ça fait moins peur. Alors, des messages qui nous sont arrivés, qui sont fréquents. Alors, il y a ceux qui n'ont pas peur, il y a ceux qui ont peur. Et puis, c'est vrai que je parlais de croyances il y a un instant, parce que je m'intéresse aussi à ceux
que ça fait un petit peu flipper quand même, hein, et qui ont du mal à vivre avec, avec cette inquiétude-là, cette angoisse-là. Il est des pays où la mort est presque joyeuse. Au Mexique, il y a la fête de la mort, où on honore les défunts, où on boit, où on mange, où on vit quelque part, le fait d'honorer les morts. En Afrique, les rites funéraires sont assez joyeux. On a toujours cette sensation aussi, et cette idée que l'esprit se promène toujours dans les maisons et dans les villages. Donc, les religions aussi, hein, nous permettent d'aborder la mort de façon différente. Est-ce que le fait de ne pas croire, parce que certains ne croient pas, nous prive aussi de toute poésie de la mort, Aurélia Schneider? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'imaginer un truc chouette?
C'est une possibilité. En fait, j'ai jamais pensé à ça.
Notre propre croyance, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais après tout, on devrait s'imaginer que pourquoi pas, pourquoi ce serait pas quelque chose qui... En fait, certains patients qui ont vécu des états de mort cérébrale et qui reviennent après racontent d'avoir été dans une sorte d'espace oui. particulièrement apaisé.
Oui.
Hein, j'ai souvenir moi d'une vieille dame qui avait raconté qu'elle était dans un champ de coquelicots. Un truc comme ça, complètement... voilà, elle était revenue de son arrêt cardiaque, enfin bon, sauvée in extremis, mais elle a été pendant donc quelques temps en état de mort, le cœur ne battait plus,
etc. On appelle une near-death experience, voilà. Hein, on est vraiment juste à côté. Ouais.
Et donc, l'expérience avait donné ça. Mais moi, j'étais bien.
C'est dingue.
Et alors, toute la famille très contente d'avoir animé la vieille dame, mais en fait, qui était bien dans son champ de coquelicots. Donc voilà, des expériences.
Et justement...
Et c'est pas la seule. Hein.
Oui, mais on entend beaucoup, hein, effectivement, d'expériences comme ça.
Il parle de lumière blanche.
Exactement.
Et quand ils reviennent, parce que moi j'ai plusieurs amis qui ont eu des morts cérébrales, ils n'ont plus peur de la mort. Parce qu'ils donnent un sens. Mais aussi, pour ne plus avoir peur de la mort, c'est essentiel de donner un sens à sa vie. Si on n'a pas de sens, à quoi bon, le à quoi bon va revenir? À quoi bon vivre puisqu'on va mourir? Mais justement, c'est parce qu'on va mourir que c'est essentiel de donner un sens et de vivre pleinement sa vie.
La mort n'est-elle pas faite pour vivre au jour le jour? Nous tweet Best Friend.
Bien sûr.
Alors, comment aussi essayer de se la visualiser autrement que une sorte de grande faucheuse qui fait peur, qui fait froid, les ténèbres, la solitude? Est-ce que ça n'est pas une solution, là aussi? Est-ce qu'on ne peut pas travailler là-dessus, Marie-France?
Je crois qu'on peut vivre aussi, on peut mourir de façon très douce. Certaines, moi j'en ai connu plusieurs, et c'est-à-dire que si on vit une vie où on est frustré, on est aigri, on est mal, on a sans arrêt des regrets... la mort va s'annoncer douloureuse. Mais si on vit bien, si on n'a pas de regrets, si on apporte quelque chose au monde, si on développe ses qualités, ses compétences, si on fait sa part du boulot à la limite pour le monde, on peut mourir bien. Et certaines personnes meurent bien, on l'oublie ça, je crois. Moi, mon père est mort très très mal, ma mère est morte très très bien.
Ouais. Aurélia Schneider, aujourd'hui, ceux qui sont dans cette inquiétude aussi, est-ce qu'elle n'est pas quelque part entretenue par une société, donc on le disait tout à l'heure, hein, où on tient la mort à distance, mais c'est une société où la mort est vraiment présente aussi. On la tient à distance, mais en même temps, on en entend parler tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Certains nous disent, moi, pour ne pas y penser, j'écoute moins les infos, je me tiens plus à l'écart. Est-ce qu'il ne faut pas prendre soin aussi de soi, dans son vécu, de sorte qu'on n'est pas trop accessible aussi à ces angoisses?
Oui, c'est-à-dire que je sais tout à fait qu'une partie de mes patients se protège beaucoup, beaucoup de la surinformation.
Oui, c'est anxiogène.
Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses très inquiétantes et qui nous touchent de près, bien sûr. Hein. Donc, non, j'ai quand même l'idée que par rapport à cette histoire de la mort... et de ce que vient de dire Marie-France, on aurait à, là encore, rétablir un petit peu de plus et de moins. Parce que ça peut être effectivement l'horreur épouvantable quand on a soi-même des expériences de proches qui meurent brutalement, d'accidents, ou même ce qui s'est passé l'année dernière et de toute façon dans le monde. Mais il y a aussi des morts qui sont apaisées avec... une vie qui a été bien remplie et qu'il faut avoir vraiment appris à profiter de ce qui nous est donné, de ce qui est possible pour nous au quotidien, au jour le jour. Au jour le jour, le matin quand on se réveille, dès le matin.
On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Waouh, comme dirait l'autre. Grande conversation quand même aujourd'hui avec vous sur l'antenne. Un tweet de Catherine. Mon grand-père est mort en jouant à la belote au café avec ses potes et pas tout seul chez lui. C'était une belle mort. Voilà, la mort peut être belle. En tout cas, je vous remercie Marie-France Ballet de Cocremont d'avoir accepté notre invitation. Vous saluerez Emmanuel. Et puis, j'arrête d'avoir peur. C'est chez Erol, les peurs en règle générale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aurélia Schneider, merci de nous avoir éclairé aussi de vos lumières. Et puis nous, on se retrouve demain. Et vous voyez, chaque jour, thème et demain on va fêter, on va célébrer. Oui, mais quoi? Avez-vous remarqué cette nouvelle tendance qui veut que nous fêtions à peu près tout et n'importe quoi? D'un emménagement à un divorce, d'une grossesse au premier rototo du bébé, tout est bon pour organiser des événements. Tout ça la fête, ce sera demain avec vous à 15h en direct sur RTL. Je vous remercie pour votre confiance et tous les messages que vous nous avez laissés aujourd'hui. C'était touchant et toujours intéressant. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.